Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Nelsundali Kamala.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo est bel et bien sous contrôle. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Santé, Roger Kamba, lors d'un briefing de presse tenu jeudi soir à Bunia. Il réagissait aux informations relayées dans certains médias, laissant entendre que la situation serait hors de contrôle. Des rumeurs qui, selon lui, ne font qu'alimenter la peur et contribuer à la propagation de la maladie au sein des communautés. Le 29 mai marque la journée internationale des casques bleus, une occasion dédiée à rendre hommage aux soldats de la paix. À cette occasion, le secrétaire général des Nations Unies salue l'engagement de plus de 50 000 casques bleus déployés à travers le monde qui œuvrent chaque jour à la protection des populations civiles. Alors que l'épidémie d'Ebola continue d'inquiéter au Nord Kivu, en Ituri et jusque dans l'Ouganda voisin, un autre phénomène se propage rapidement, la désinformation, un danger majeur en période de crise sanitaire car il fragilise la confiance des communautés, détourne les malades des structures de soins et complique la riposte. Pour en parler, nous recevons André Michel Essungu, expert en lutte contre la désinformation et co-auteur du livre « Les virus du doute ». Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal Parler du matin. Le gouvernement reste déterminé à assurer la prise en charge de tous les malades d'Ebola actuellement sous traitement dans les zones touchées par l'épidémie. C'est ce qu'a déclaré jeudi soir à Bunia le ministre de la Santé publique Roger Kamba lors d'un briefing de presse co-animé avec son collègue de la communication et médias Patrick Muyaya Katembwe. Le ministre Kamba a également dénoncé la propagation de fausses rumeurs sur la maladie à travers les réseaux sociaux, estimant que ces intox contribuent à aggraver la situation au sein des communautés. Suivez le ministre Roger Kamba au micro de Martial Kizabiamungu.
Aujourd'hui, nous avons 906 cas suspects, nous avons à peu près 223 décès suspects, nous avons... Dans nos centres de traitement ici dans la province, nous avons 105 malades. Alors, je voudrais insister là-dessus pour dire, parce que j'ai entendu ça dans la presse, que l'épidémie est hors contrôle. Nous avons 105 personnes qui sont dans les centres de traitement. Et donc, on ne peut pas nous dire que l'épidémie est hors contrôle quand on a 105, ça peut se soigner même pas dans un hôpital général de référence. C'est pas un nombre qui peut nous rendre complètement parano pour dire que nous sommes dans une épidémie incontrôlée. Je voudrais quand même insister aussi sur un autre chiffre qui est intéressant. C'est, je vous ai dit qu'on est à peu près à 906 cas suspects. Là-dedans, je compte les cas qui sont dans la province de l'Ituri, mais aussi dans le nord et le sud Kivu.
Lutte contre Ebola toujours, la mobilisation internationale s'accélère, les États-Unis remettent la main à la poche. Washington annonce une nouvelle enveloppe de 80 millions de dollars pour soutenir la RDC et l'Ouganda. Objectif, contenir l'épidémie à sa source, protéger les populations et éviter toute propagation au-delà des frontières. Avec ce nouveau financement, l'aide bilatérale américaine dépasse désormais 112 millions de dollars américains en moins de deux semaines. Tous les détails dans ce reportage signé Gisèle Cage.
Le gouvernement des États-Unis affirme poursuivre une riposte rapide, coordonnée et globale face à l'épidémie d'Ebola qui touche actuellement la RDC et l'Ouganda. Sur le terrain, Washington annonce un nouveau financement de 80 millions de dollars américains destiné à renforcer les opérations de riposte menées par ses partenaires. Ce financement permettra notamment d'intensifier l'acquisition et la distribution d'équipements de protection pour le personnel de santé avec l'appui de l'UNICEF et du programme alimentaire mondial. Le contrôle sanitaire aux frontières assuré par l'Organisation internationale pour l'immigration avec un accent sur la sensibilisation des populations et la surveillance des cas. À cette nouvelle contribution, l'aide bilatérale américaine mobilisée en moins de deux semaines dépasse désormais 112 millions de dollars pour la lutte contre Ebola. En parallèle, 50 millions de dollars supplémentaires ont été alloués au bureau de la coordination des affaires humanitaires de Nations Unies États-Unis pour soutenir la mise en place des centres de soins spécialisés dans les zones affectées. Enfin, les États-Unis annoncent un appui plus large de 300 millions de dollars via le fonds de l'OCHA pour répondre aux besoins humanitaires dans l'ensemble de la région touchée.
Nous allons à présent nous rendre à la prison centrale de Bunia pour observer les mesures de prévention mises en place contre la maladie à virus Ebola. Dans ce contexte marqué par la progression de l'épidémie, l'établissement pénitentiaire renforce ses dispositifs afin d'éviter toute contamination au sein de ces milieux particulièrement vulnérables. Hier jeudi, une équipe de l'Organisation mondiale de la santé, accompagnée de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO, a effectué une visite d'évaluation. Une mission jugée essentielle dans cette maison carcérale exposée à de forts risques sanitaires en raison de la surpopulation et de la promiscuité. Le reportage est signé Jean-Claude Lokidile.
Au cours de cette visite, les équipes de l'OMS ont sensibilisé les détenus ainsi que le personnel pénitentiaire aux gestes barrières et à l'utilisation des équipements de protection. Le personnel médical de la prison se réjouit déjà de cet appui. Joseph Onya est infirmier.
Nous n'avons qu'à remercier l'équipe de l'OMS qui a songé à nous, et surtout les gels et ainsi que les gants pour continuer vraiment à nous protéger. C'est ce que nous étions en train de plaider à chaque minute. Heureusement que c'est arrivé et d'autres histoires. Vraiment, nous sommes bénis.
Pour l'administration pénitentiaire, cette assistance arrive à un moment crucial. Le directeur de la prison centrale de Bunia, Camille Zondi, rappelle que les agents de santé restent les plus exposés face au risque de contamination.
Vous connaissez les moments. Cela épargne nos personnels qui sont en contact direct avec les malades et se protéger. L'infirmerie reçoit les malades, que ce soit les détenus au besoin, les gens qu'on va les recevoir comme visiteurs, s'il est malade, sur les reçoit. Et ces matériels vont les protéger aussi par rapport à cette maladie-là.
Selon les responsables de la prison, d'autres besoins restent encore à couvrir afin de limiter efficacement les risques de propagation d'Ebola dans cet établissement pénitentiaire qui accueille à ce jour 2231 détenus. Bunia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Capi.
Pour clore ce dossier consacré à la maladie à virus Ebola, notez que le Parlement des jeunes a lancé mercredi une campagne de sensibilisation à Bunia, une campagne ciblant les écoles primaires et secondaires de la ville. Objectif, amener les écoliers à prendre conscience de la présence de la maladie, à respecter les mesures barrières et ainsi freiner la chaîne de propagation en milieu scolaire. Une initiative saluée par les bénéficiaires qui y voient un moyen efficace de se protéger et de protéger leur entourage. Le point avec Martial Kizabiamongo.
C'est avec un mégaphone que le Parlement des jeunes de l'Ituri sensibilise les élèves dans différentes écoles de Bunia. Les coups d'envoi a eu lieu au complexe scolaire La Colonne des Fées, située au quartier Oro, dans la commune de Bunia. Selon cette structure juvénile, cette démarche vise d'abord à barrer la route aux fausses informations qui circulent à propos de cette épidémie. Elle vise également à impliquer les écoliers dans la riposte contre Ebola en appliquant les mesures barrières. Dieu merci, Mbogemo, porte-parole du Parlement des jeunes de l'Ituri.
On a sensibilisé les enfants sur les symptômes de cette maladie, notamment les saignements aux nœuds et à la bouche, la forte fièvre, les vomissements de tête. Ils doivent directement alerter les parents, ils doivent alerter les enseignants afin de barrer la route à cette maladie.
Au nom de ses élèves, la directrice du primaire du complexe scolaire La Colonne des Fées salue cette initiative. Elle estime qu'elle va aider les élèves à se protéger contre cette maladie qui fait peur dans la communauté. Notons que des morts d'Ebola sont déjà enregistrées parmi certains élèves des écoles de Bunia. Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Ce vendredi 29 mai marque la journée internationale des casques bleus, une occasion dédiée à rendre hommage aux soldats de la paix. À cette occasion, le secrétaire général des Nations Unies a rappelé, je cite, « À l'heure actuelle, plus de 50 000 casques bleus des Nations Unies sont déployés dans le monde et protègent la population civile. Loin de chez eux, dans certains des lieux les plus dangereux de la planète, ils apaisent les tensions entre des parties hostiles, supervisent l'acheminement de l'aide, contribuent au bon déroulement des élections et créent un espace propice pour des solutions politiques. » Fin de citation. Le thème retenu cette année est « Investir dans la paix », un appel à renforcer les moyens humains, matériels et financiers pour soutenir les opérations de maintien de la paix. D'autres détails dans ce compte rendu d'Alain Irung, rendu par Lévin Mwinga.
En cette journée internationale, nous rendons hommage au casque bleu d'hier et d'aujourd'hui et réaffirmons qu'il est de notre responsabilité commune de respecter et d'appuyer leur action. Nous rendons hommage aux quelques 4500 soldates et soldats de la paix qui ont perdu la vie depuis 1948, dont 59 l'an dernier. Personne ne devrait mourir au service de la paix, indique Antonio Guterres. Le secrétaire général de l'ONU précise que les attaques visant les casques bleus constituent de graves violations du droit international humanitaire et les États membres se doivent de garantir à tout moment la sécurité du personnel des Nations Unies. Pour lui, à une époque où les tensions s'intensifient, le maintien de la paix constitue un moyen reconnu et économe en ressources de rétablir la stabilité et de redonner espoir. Mais pour ce faire, il faut un soutien politique constant et un soutien financier fiable. Il faut assurer aux casques bleus les ressources dont ils ont besoin pour mener à bien leur mandat essentiel. Investir dans le maintien de la paix, c'est investir dans un avenir plus sûr, conclut le patron de l'ONU.
Autre actualité, les inspecteurs de l'enseignement de la division éducationnelle Nord-Kivu 2, qui couvre Beni, Butembo et Lubero, hausse les tons. Ils menacent de boycotter les prochaines épreuves certificatives, notamment l'ENAFEP, le TENASOSP et l'examen d'État 2026. Dans un mémorandum adressé mercredi à la ministre de l'Éducation nationale, leur syndicat dénonce le non-paiement d'une partie de leurs indemnités de l'édition 2025 ainsi que l'absence des garanties pour la session 2026. Ils affirment avoir participé aux épreuves de haute session par patriotisme, mais préviennent qu'ils n'assureront plus les prochaines étapes si leurs revendications ne sont pas prises en compte. Écoutons Samuel Kakule-Kombi, secrétaire du syndicat national des inspecteurs de l'enseignement au Congo, dans cet extrait proposé par Martial Papimukeba.
Ayant constaté que seuls 49% des frais alloués à la participation des candidats victimes de l'agression dans les zones occupées avaient réellement payé, tandis qu'aucune garantie concrète n'est donnée quant à l'apurement du reliquat ni au décaissement des faux promis pour la prise en charge des frais de participation aux épreuves de la session 2026, l'Assemblée générale de ce jour-là avait accepté de participer à la hors session du 4 au 10 mai, tout en prévenant qu'il n'en sera pas autant pour la suite tant que les comptes ne seront pas totalement réglés. Si, malgré cet état de fait, le Sinieko avait accepté de prester, c'était par esprit des responsabilités face au silence persistant des autorités compétentes. Le Sinieko se réserve le droit de boycotter toutes les épreuves à venir, notamment l'ENAFEP, le TENASOSP et la session ordinaire de l'exétat et du gymnastique si aucune mesure concrète n'est prise avant l'élancement officiel de ces épreuves.
Pour l'instant, nous n'avons pas encore reçu la réaction de la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. C'est parti avec la reprise des travaux de modernisation des routes nationales numéro 5 et 30 au sud Kivu. Des travaux qui redonnent espoir aux habitants de la ville et du territoire d'Uvira. Ces activités ont été brusquement arrêtées à la suite du pillage des matériaux ainsi que des machines lors de l'occupation momentanée de la ville d'Uvira par l'AFC M23. La relance des travaux sur ces deux routes nationales est sans nul doute accueillie avec soulagement par la population car ces voies facilitent le trafic entre cinq pays limitrophes de la RDC, notamment le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie et la Zambie. Jean Kassami nous en dit plus.
Les travaux de bitumage ont repris sur la route nationale numéro 5 et tronçon Pokavimvira-Mulongwe, le tout au frais du gouvernement de la République. Et sur la route nationale numéro 30, les travaux sont à la phase d'aménagement des caniveaux, depuis Kavimvira jusqu'à la frontière congolo-burundaise. C'est l'Union européenne qui finance les travaux. Pour l'administrateur du territoire d'Uvira, la modernisation de ces deux routes nationales implique non seulement le désenclavement de son entité, mais aussi celui des territoires de Fizi, Mwenga et de Kindoumaniema. Jean-Dédier Mabiswa.
Il y a deux semaines que les activités ont repris, malgré qu'il y a eu vol des matériaux de construction et des machines, mais sinon l'entreprise est en train d'exécuter les travaux et nous espérons que d'ici 4 mois, les travaux peuvent tendre vers la fin, c'est-à-dire au niveau de Kalundu, parce que c'est là qu'on va s'exécuter dans un premier temps.
Les travaux de modernisation de la route nationale numéro 30 financée par l'Union européenne ne souffrent pas de problèmes de liquidité comme c'est le cas pour la RN5, indique Dominique Calonzo, habitant d'Ouvira. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Et puis, ce problème qui hante les habitants de Kinshasa, marcher sur les trottoirs n'est plus synonyme de sécurité. Dans la capitale congolaise, les piétons doivent désormais partager leur espace avec voitures et motos, transformant chaque déplacement en véritable parcours du combattant. Face à cette situation, les Kinois cherchent chaque jour des pistes alternatives pour circuler plus sereinement et éviter les dangers de la chaussée. Le point avec Sephora Mpaka.
Un phénomène devenu une habitude. Chauffeurs et motards n'hésitent plus à emprunter le marche-piéton pour contourner les embouteillages. Une pratique qui, loin d'être marginale, s'est installée comme une habitude dans les grandes artères de la ville de Kinshasa. Résultat, les trottoirs, censés protéger les piétons, deviennent des voies de circulation improvisées. Pour les usagers de la route, cette pratique est un véritable casse-tête.
Ici chez nous d'ailleurs, on n'a pas l'habitude de respecter les règles, les principes. Il fallait que je traverse. Mais arrivé de ce côté, je me suis retrouvé dans un embarras parce que je ne savais pas où mettre le pied. Il y a des véhicules qui passent par n'importe où. Alors, c'est un danger pour la population. C'est nous, les usagers de la route, comme des piétons. Bon, nous ne sommes pas en sécurité alors. La cause principale, c'est la précipitation.
De son côté, une dame alerte.
C'est un emplacement pour nous piétons et lorsqu'ils nous envahissent de ces côtés, c'est un risque permanent des accidents et le gouvernement doit procéder à un suivi permanent pour faire respecter les règles.
Entre le manque de régulation stricte et l'indiscipline de certains conducteurs, la cohabitation entre piétons et véhicules reste chaotique. En attente de mesures concrètes pour établir l'ordre, marcher en sécurité dans les grandes artères de Kinshasa restera une activité à haut risque.
Actualité internationale.
Guerre au Moyen-Orient, au Liban, Israël a poursuivi ses frappes meurtrières jeudi 28 mai, alors même que l'armée israélienne a étendu sa zone de combat contre les Hezbollah pro-iraniens, malgré un cessez-le-feu théoriquement en vigueur depuis le 17 avril. Ce vendredi 29 mai, le volet sécuritaire des négociations entre Israël et le Liban s'ouvre à Washington. Sur le terrain des négociations, un protocole d'entente pour prolonger leur cessez-le-feu et lever les restrictions sur la navigation dans les détroits d'Hormuz semble se dessiner entre États-Unis et Iran sans que Donald Trump ne l'ait encore validé.
L'invité.
Alors que l'épidémie d'Ebola continue d'inquiéter au Nord Kivu et en Ituri ainsi qu'en Ouganda voisin, un autre phénomène se propage rapidement, la désinformation. Rumeurs sur l'existence de la maladie, messages de manipulation sur les réseaux sociaux et autres contenus trompeurs compliquent le travail des équipes sanitaires et exposent davantage les populations. Quel est le danger de la désinformation en période de crise sanitaire et comment la combattre? Nous recevons André-Michel Essungu, expert en lutte contre la désinformation et co-auteur du livre « Les virus du doute » publié récemment aux éditions Tila à Douala au Cameroun. Il s'entretient avec Martial Papimukeba.
André-Michel Essungu, bonjour.
Bonjour Martial et merci de m'inviter à votre émission.
Dans un contexte d'épidémie comme Ebola, en quoi la désinformation est aussi dangereuse que la maladie elle-même?
Nos recherches le confirment, la rumeur tue autant que le virus, de manière simplement différente. La rumeur tue quand les populations pensent qu'une maladie, une épidémie comme celle d'Ebola, est une invention et qu'elle fuit les centres de traitement. Le virus, dès lors, se propage plus librement et de manière plus difficile à contrôler. Et dès lors, il est très compliqué de venir en aide aux victimes et aux potentielles victimes. En RDC, une étude que nous mentionnons dans notre livre « Le virus de doute », une étude conduite dans le Nord Kivu il y a quelques années, avait établi que plus de 85% des habitants de la province avaient entendu dire lors d'une épidémie précédente qu'Ebola avait été fabriqué pour déstabiliser la région. Et dès lors, lorsque les gens pensent à un tel niveau que si une maladie aussi grave est une invention, il va de soi que la maladie s'aggrave et se prolonge plus longtemps qu'elle ne devrait. La désinformation détruit la confiance dans les soignants et ceux qui viennent en aide, et sans cette confiance, aucune riposte sanitaire ne peut vraiment fonctionner.
En Ituri, par exemple, malgré la réalité de l'épidémie, des voix continuent d'affirmer qu'Ebola n'existe pas ou qu'il s'agit d'une manipulation. Ces discours ont parfois des conséquences graves. Attaques contre les centres de traitement et fuite des malades dans la communauté. Comment expliquer que ces rumeurs trouvent aussi facilement un écho auprès de certaines populations?
Parce qu'elle s'appuie sur des blessures réelles, des décennies d'expérimentation médicale, parfois pas très morales, ont eu lieu dans divers endroits du monde, dont en Afrique, et ces décennies et ces faits ont laissé des traces réelles. On sait que dans plusieurs provinces de l'Est du Congo notamment, il y a une certaine méfiance vis-à-vis des organisations internationales, et non pas seulement celles qui travaillent dans le domaine de la santé. Et cet écho, l'écho de cette méfiance alimente le travail des manipulateurs, ceux qui instrumentalisent les mensonges et s'appuient sur ce passé et cet écho. Et c'est là un peu tout le génie toxique de la désinformation et l'épouse des blessures qui existent pour mieux les infecter.
Concrètement, quelles peuvent être les conséquences de la désinformation et des rumeurs sur la riposte sanitaire dans une région insécurisée comme l'Est de la RDC?
Les conséquences concrètement sont immédiates et mortelles. Attaques contre les centres de traitement, fuite de malades dans les communautés et des soignants qui abandonnent le terrain à cause de la peur de se faire attaquer. Tout ceci rend la vie plus facile à la maladie, à sa propagation. On sait, en zone de conflit, la désinformation détruit la coordination entre les acteurs humanitaires. Chacun devient suspect et le virus se propage à l'ombre de cette rumeur.
Face à cette épidémie de rumeurs qui vient s'ajouter à celle d'Ebola, que doivent concrètement faire les autorités, les médias, les leaders communautaires et les citoyens pour freiner la désinformation et éviter qu'elle ne mette encore plus de vies en danger?
Alors, que faire? La vérité, c'est que il y a des choses qui sont faites. L'OMS, notamment, a mis sur pied depuis quelques années un travail de surveillance, de monitoring, non pas seulement de la propagation des virus dans le cadre des épidémies, mais aussi de la propagation de la désinformation et de la mésinformation autour de ces phénomènes. L'OMS a été vraiment à l'avant-garde de ce travail. Mais au-delà de l'OMS et de son travail de surveillance pour comprendre ce qui se passe, il est important ensuite, notamment au plan local, que des autorités fassent le même travail de monitoring qui peut être de ce qui se dit en ligne, mais aussi de ce qui se dit au sein des communautés. Ce travail de monitoring doit ensuite alimenter la communication des autorités. Il vaut mieux communiquer tôt avec transparence. Le silence crée toujours un vide dans lequel la rumeur et la désinformation s'engouffrent. Il y a un travail à faire du côté des médias, aller chercher les faits sur des terrains et les rapporter suivre les canaux qui comptent, les médias sociaux, WhatsApp comptent beaucoup, et dans les langues qui marche mieux, les langues locales parlées dans les communautés. Les leaders communautaires ont un travail important à faire, ils sont souvent les seuls qui sont vraiment écoutés. Et puis enfin, les citoyens ordinaires doivent faire très attention lorsqu'ils partagent. Avant de partager, se poser une question tout simple: qui a intérêt à croire à ça?
André Michel Essungu, merci.
C'était notre invité André Michel Essungu qui s'entretenait avec Martial Papi Mukeba. Et c'est ce qui met fin à cette édition du journal préparée pour vous par Lévin Bouinga Vobou et mise en onde par Alain Goy. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.